VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du mercredi 28 février 2018, en direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Pour commencer, les titres.
Au Burkina Faso, la défense a forcé la suspension du procès des auteurs présumés du putsch manqué de 2015.
En République démocratique du Congo, accord du président Joseph Kabila pour une visite conjointe des patrons de l'ONU et de la Commission de l'Union africaine.
Au Nigeria, création d'une commission sur les circonstances de l'enlèvement de 110 filles dans le nord-est.
En Syrie, les hostilités ont repris entre l'armée et les insurgés, compromettant une trêve humanitaire dans la Ghouta orientale.
Washington, Londres, Paris et Berlin condamnent l'Iran pour violation de l'embargo sur les armes imposées par l'ONU au Yémen.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Burkina Faso, suspension sine die du procès des auteurs présumés du putsch manqué de septembre 2015. Les avocats de la défense contestent la légalité du tribunal militaire et se sont retirés de l'audience hier. Des détails avec Eric Manirakidza.
Maître Michel Traoré, avocat de l'ancien chef d'état-major Boureima Kéré, et Maître Mathieu Sommet, avocat du général Gilbert Diendéré, ont récusé les membres de la cour. Avant de se retirer, ils ont estimé que la juridiction devant juger cette affaire n'est pas légale. L'un des avocats des parties civiles a dénoncé une manœuvre dilatoire de la défense. Maître Guy Hervé Cam a dit que les accusés vont utiliser les moyens les plus hasardeux pour faire durer le procès afin d'éviter d'être jugé. Le président du tribunal, Seydou Edraogo n'a pas précisé la date de la reprise du procès. Au total, 66 militaires et 18 civils sont poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État, meurtre, causes et blessures volontaires ou trahison. 54 comparaissent libres, 8 sont en fuite, seront jugés par contumace. Les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé sont considérés comme les cerveaux présumés de ce coup d'État manqué qui a fait 14 morts et 270 blessés.
Au Nigeria, le gouvernement a annoncé hier la mise en place d'une commission pour essayer de comprendre les circonstances de l'enlèvement de 110 élèves à Dapchi, dans le nord-est du pays. Anastasie Toudiech.
Le groupe de 12 membres est composé de militaires, de policiers, d'agents du renseignement et des membres du gouvernement local de Yobe. Il est présidé par un haut gradé de l'armée. D'après Lai Mohamed, ministre nigérian de l'information, ce comité doit évaluer la présence et la composition de l'appareil sécuritaire à Dapchi lors de l'attaque. Un rapport est attendu au plus tard le 15 mars avec des recommandations sur des mesures de prévention pour empêcher un nouvel incident. Le gouverneur de l'état de Yobe, Ibrahim Gaïdam, a déclaré qu'il n'y avait aucune présence militaire à Dapchi au moment de l'attaque du 19 février. L'armée a aussitôt démenti, qualifiant ces accusations de regrettables et très loin de la réalité. D'après les témoignages des habitants, des djihadistes présumés sont arrivés à Dapchi dans le but précis de mener ce kidnapping de masse. 110 élèves sont toujours portés disparus, près de 4 ans après la tragédie à Chibok, où plus de 200 lycéennes avaient été enlevées.
Le président Joseph Kabila a donné son accord pour une visite conjointe en République démocratique du Congo du patron de l'ONU, Antonio Guterres, et du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Selon le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, cité par l'AFP, l'ONU avait écrit une lettre pour proposer cette visite dans la perspective des élections présidentielles et législatives prévues en fin d'année. Aucune date précise n'a encore été arrêtée pour ce déplacement. La date retenue pour ces scrutins est le 23 décembre, mais l'incertitude demeure sur ce que décidera le président Kabila. L'opposition lui réclame d'annoncer formellement qu'il ne sera pas candidat à un nouveau mandat.
Concernant toujours la République démocratique du Congo, libération du professeur Witt Mulongo, ancien directeur de cabinet de l'opposant Moïse Katumbi. Il avait été arrêté en avril 2016 et condamné à 3 ans de prison ferme pour détention d'armes et munitions de guerre. De Lubumbashi, notre correspondant Narval Mabila fait le point.
C'est dans la nuit du lundi à mardi que le professeur Itumulongo Kalonda Bampeta a été libéré des cliniques universitaires où il a été hospitalisé. Cela fait suite à la publication le 22 février de l'arrêté du ministre de la Justice et Garde des Sceaux portant sa libération conditionnelle. Il a déjà purgé à peu près 2 ans d'emprisonnement à la prison de la Cassapa, puis son lit d'hôpital. C'est un homme affaibli mais courageux dans ses propos. Il est au micro de la VO Afrique.
Je suis opposant à des anomalies, à des niaiseries. Si les niaiseries changent, ce sens d'opposition, il n'y en aura pas. Mais pour l'instant, qu'est-ce qui m'a amené? Ce que j'appelle la niaiserie, lorsque vous dites à quelqu'un, si vous grimpez avec un seul pied à l'arbre, vous allez tomber, vous n'irez pas plus loin, on vous arrête. Comment on peut interdire à un fils du pays de ne pas être chez lui? Quand on est conseiller d'une personnalité, on doit jouer franc jeu.
Lubumbashi, Narval Mabila, VO Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, les hostilités ont repris entre l'armée et les insurgés, compromettant une trêve humanitaire dans la Ghouta orientale. Près de 600 civils ont péri dans cette enclave rebelle assiégée en 10 jours de bombardement du régime syrien. Une trêve quotidienne de 5 heures avait été décrétée lundi par la Russie, grande alliée du président Bachar al-Assad, pour permettre l'entrée de l'aide ou la sortie d'habitants ou de blessés de l'enclave. Mais les protagonistes se sont aussitôt accusés mutuellement de l'avoir violée. 4 jours auparavant, le Conseil de sécurité de l'ONU avait réclamé à l'unanimité une trêve sans délai de 30 jours dans toute la Syrie, ravagée par la guerre depuis le 15 mars 2011.
Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne ont condamné hier l'Iran pour avoir violé l'embargo sur les armes imposé par l'ONU au Yémen. Ils l'ont fait dans un communiqué publié au lendemain d'un veto russe à une résolution dénonçant Téhéran. Dans un récent rapport, les experts de l'ONU ont conclu que l'Iran n'avait pas pris les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture notamment de missiles et de drones de fabrication iranienne présumée aux rebelles houthis au Yémen. Téhéran a toujours démenti fournir des armes aux houthis.
Ici aux États-Unis, la Cour suprême a jugé hier que les migrants détenus n'ont pas droit à une demande de libération conditionnelle, même quand leur rétention administrative se prolonge de façon interminable. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Les immigrés clandestins risquent désormais de passer des mois, voire des années en détention s'ils sont interpellés pour avoir franchi illégalement la frontière et qu'ils contestent leur expulsion ou s'ils sont arrêtés pour une infraction valant expulsion et qu'ils choisissent de lutter pour rester aux États-Unis. Il est incroyable qu'un citoyen arrêté pour un crime ait droit à une audience dans les 48 heures, alors qu'un étranger qui n'a commis aucun crime va être détenu 6 mois sans être entendu par un juge. A réagi David Cole de l'Organisation américaine de défense des droits des immigrés. Stephen Breuer, un des juges progressistes de la Cour, opposé à cette décision, a appelé à se souvenir du mot « liberté » contenu dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis. L'affaire jugée hier trouve son origine dans un recours collectif lancé par un Mexicain, Alejandro Rodriguez, et d'autres étrangers. Arrivé en bas âge aux États-Unis, M. Rodriguez bénéficiait d'un permis de séjour. Toutefois, il a été interpellé pour détention de stupéfiants et les autorités voulaient l'expulser. Il a passé 3 ans en détention avant de pouvoir faire valoir son droit de rester dans le pays.
Toujours aux États-Unis, l'amiral Mike Rogers, directeur de l'agence de renseignement, la NSA, a dit n'avoir jamais reçu du président Donald Trump des instructions spécifiques en dehors de sa propre autorité pour contrer l'ingérence des Russes dans les prochaines législatives de 2018. Après ce qu'ils ont fait pendant la présidentielle de 2016. L'amiral Rogers, déposé hier devant une commission parlementaire. En réaction, la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee Sanders, a dit qu'elle ne pouvait pas discuter de l'autorité à laquelle M. Rogers faisait allusion, ajoutant que le président Trump examine cependant des moyens d'empêcher une nouvelle ingérence russe.
L'Europe est envahie par une vague de froid venue de Sibérie. En 4 jours, il y a eu 20 de morts de la mer Baltique à la Méditerranée et la météo prévoit encore du froid ce mercredi. Le point avec Raïssa Girondin.
Cette vague de froid est surnommée la bête de l'Est par les médias britanniques, l'ours de Sibérie aux Pays-Bas, le canon à neige en Suède ou le Moscou-Paris en France. Depuis vendredi, au moins 23 personnes ont péri, dont 9 en Pologne et 3 en France. En Roumanie, une femme de 83 ans, retrouvée morte dans la rue, était recouverte par la neige.
À Londres, British Airways a annulé plus de 60 vols. En Italie, Rome a connu lundi sa première neige en 6 ans et l'aéroport de Naples a dû fermer. En Roumanie, 3 ports sur la mer Noire ont été fermés. À cause du verglas, les accidents de la route se sont multipliés. Les établissements scolaires sont aussi perturbés dans de nombreux pays européens. Et la météo prévoit encore un blizzard sur une bonne partie de l'Europe.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Le Gabon compte mobiliser 200 milliards de francs CFA pour réhabiliter son réseau ferroviaire d'environ 650 km. Libreville veut booster la production minière, l'acheminement plus rapide du bois et du manganèse. Ce projet permettra aussi une amélioration du transport des personnes et des biens. Il s'inscrit dans le plan stratégique Gabon émergent. Le gouvernement fournira 61 milliards de francs CFA et la société d'exploitation du Transgabonais mobilisera le reste. Les travaux doivent démarrer en mars prochain. Accord entre l'Algérie et la Turquie pour faciliter le travail des hommes d'affaires turcs en Algérie. D'après le président Recep Tayyip Erdogan, l'accord permettra d'améliorer et diversifier les échanges commerciaux. Il a ensuite insisté sur la promotion et la protection des investissements à convenir le plus rapidement possible. Cet autre accord de partenariat et de coopération et mémorandum d'entente ont été signés lundi soir. Ils concernent les hydrocarbures, l'agriculture, le tourisme, l'enseignement supérieur, la diplomatie et la culture. Monsieur Erdogan poursuivra sa tournée africaine en Mauritanie, au Sénégal et au Mali. La dette kényane a atteint un montant record de plus de 4 trillions de shillings en 2017. L'augmentation est due à l'accroissement de la dette extérieure. Cette situation pourrait mettre à mal l'économie dont la croissance de la dette est plus élevée que celle des revenus. La semaine passée, le gouvernement a lancé une nouvelle émission de rebond de 2 milliards de dollars avec les risques de perdre en crédit du Fonds monétaire international.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour, Odessa. Bonjour à tous.
Ronaldo au repos, une semaine avant PSG, Real Madrid, en Ligue des Champions.
Et oui, c'est la deuxième fois en 3 matchs que l'entraîneur ne retient pas la star portugaise. Ronaldo était également absent lors du match remporté contre Leganés le 21 février dernier. L'entraîneur du Real, Zinedine Zidane, a donc décidé de mettre Cristiano Ronaldo au repos hier pour le match contre l'Espagnol Barcelone en ouverture de la 26e journée de la Liga. Et ce, à une semaine du match retour de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Hasard ou pas, le Real Madrid a été tenu en échec 0-0.
Et au PSG, on s'inquiète pour Neymar.
Oui, pour Neymar, il n'y a pas de décision d'opération. On va voir comment ça évolue dans les jours qui viennent, a indiqué le coach du Paris Saint-Germain, Unai Emery, au sujet de la blessure du Brésilien. Et c'est à une semaine du choc, on le disait, contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Neymar, on s'en souvient, est sorti dimanche sur une civière après s'être blessé tout seul à la fin du match remporté contre l'Olympique de Marseille en championnat. 3-0.
Suspension pour le français Samir Nasri.
Ouais, l'ex-international français Samir Nasri, sans club depuis son départ d'Antalya Sport en Turquie en janvier, a été suspendu 6 mois pour violation des règles antidopage. C'est ce qu'indique l'UEFA. Tout est parti du passage du joueur quand il évoluait à Séville dans une clinique nord-américaine qui avait communiqué sur un traitement intraveineux de vitamines, alors qu'il s'agit d'une méthode prohibée par l'Agence mondiale antidopage, comme le rappelle l'UEFA. Allez, Drissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Charlotte bat Chicago 118-103, Cleveland et Brooklyn 129-123, Miami et Philadelphie 102-101, Washington et Milwaukee 107-104.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de la césarienne.
Il s'agit d'une technique d'accouchement qui permet d'extraire le bébé en faisant recours à la chirurgie lorsque le travail naturel de la maman est difficile.
Pour en parler, nous recevons le docteur Michel Toussalissana, directeur de l'hôpital général de référence de Béni en RDC. Il nous expliquera quand la césarienne est nécessaire et ce qu'il faut faire avant et après l'opération.
Nous écouterons également les témoignages d'Anouska, une femme ayant accouché 3 fois par césarienne. Nous donnerons aussi la parole à Angèle Malemba, sage-femme au centre hospitalier La Bande à Kinshasa.
Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30 temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Niger, l'ambassadeur américain à Niamey affirme que les États-Unis n'ont pas de base militaire dans ce pays où quatre bérets verts sont morts en octobre 2017 dans une embuscade au niveau du village de Tongo-Tongo. Cette précision d'Eric Whitaker intervient dans une période de vive critique contre les présences militaires étrangères sur le sol nigérien. Reportage du correspondant de VOA Afrique à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Alors que beaucoup de voix s'élèvent dans l'opinion pour dénoncer et même exiger le départ des troupes militaires étrangères sur le sol nigérien, l'Italie ayant récemment annoncé aussi son intention d'envoyer environ 400 soldats au Niger, le ministre de la Défense nationale a récemment expliqué le bien fondé de cette présence militaire étrangère sur le sol nigérien tout en les clarifiant. Kala Moutari.
Les présences militaires de notre pays, il y en a deux. La France à Niamey, parce que nous avons prêté nos équipements et notre territoire à tous ceux qui pouvaient aider le Mali à sortir de la crise dans laquelle il était plongé il y a quelques années. Nous avons fait appel aussi aux Américains. Il n'y en a que ces deux, les Français et les Américains.
Les États-Unis d'Amérique n'ont cependant pas de base militaire sur le sol nigérien, selon son nouvel ambassadeur en poste à Niamey, qui était face à la presse ce mardi, Eric Whitaker.
Non, il n'y a pas de base militaire
américaine au Niger. Ils sont là en tant que groupe militaire pour la formation et l'assistance aux militaires nigériens et ils sont là temporairement.
Le nombre de soldats américains au Niger est estimé à 800. En octobre 2017, quatre d'entre eux ont été tués dans une embuscade au niveau du village de Tongo-Tongo, près de la frontière malienne. Les résultats de l'enquête sur les circonstances de la mort de ces quatre bérets verts annoncés pour le mois de janvier dernier sont toujours attendus. Sur la question, le diplomate américain répond ceci.
It is long in coming, you have a good point.
Les résultats de l'enquête sur ce qui s'est passé à Tongo-Tongo tardent à sortir, mais vous ne pouvez pas comprendre combien ce rapport est long. C'est des milliers de pages. Et c'est compliqué, la procédure est compliquée. Il faut, après avoir fini l'investigation, quand les résultats sortiront, il y a une chaîne pour approuver ce rapport. Il faut aussi que les familles des victimes soient mises au parfum, etc., etc. Mais c'est en cours. Ça va venir très prochainement, ça sera public.
Abdulrazak Idrissa, Niamey, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24 heures sur 24.
Au Nigeria, conférence sur la réhabilitation du lac Tchad, victime du réchauffement climatique, et aussi repère des djihadistes du groupe nigérian Boko Haram. Sa disparition complète sous l'effet du dérèglement climatique pourrait avoir de graves conséquences économiques et commerciales pour les quatre pays concernés, Tchad, Cameroun, Niger et Nigeria. Reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Le changement climatique, aggravé par une très mauvaise gestion des ressources hydrauliques au fil des ans, a conduit à la disparition de 90% de la surface du lac en 55 ans. En plus de la menace de la disparition du lac et du manque de nourriture que cela entraîne, la région est aujourd'hui devenue le foyer de nombreuses crises sécuritaires, notamment celle des djihadistes du groupe terroriste nigérian Boko Haram. Mohamed Alifa Moussa est le secrétaire général du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche du Tchad.
Vous conviendrez partagez avec moi que quand la pauvreté s'installe, ça devient un foyer de recrutement des djihadistes. Et c'est le cas de Boko Haram qui fait de cette zone le fief de son recrutement. Du coup, nous avons plusieurs enjeux, plusieurs défis à relever. Un défi environnemental soit celui de restaurer le lac Tchad dans sa capacité initiale.
Les implications de la disparition complète du lac pourraient priver des millions de personnes de l'eau nécessaire pour survivre grâce à la pêche, l'agriculture, l'élevage et le commerce dans les quatre pays limitrophes, le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria, comme le reconnaît le vice-président du Nigeria, Yemi Osinbajo.
The implications of this are grave indeed.
Les implications sont graves en réalité. La diminution du lac et l'intensification de la désertification menacent un grand nombre de personnes qui dépendaient de ce lac pour la pêche, l'irrigation et de l'eau pour le bétail. Les migrations et les problèmes de réintégration augmentent les difficultés.
De nombreux représentants des quatre pays limitrophes du bassin du lac Tchad, ainsi que du Centrafrique et d'autres institutions internationales, sont réunis à Abuja pour discuter des solutions pour réhabiliter l'écosystème du bassin et restaurer la sécurité et le développement dans la région. Lawrence Freeman est vice-président du comité scientifique sur le lac Tchad.
Since about 1963, the lake has shrunk from about 25,000 square kilometers.
Depuis 1963, le lac a diminué de 25 000 km à 2025 km. Donc, c'est 90% de diminution. Il y a plus de 30 millions de personnes qui vivent dans le bassin du lac, avec la moitié des Nigérians qui ont leur vie détruite.
Les Nations Unies se sont engagées à financer des programmes de recherche et de conservation à hauteur de 65 millions de dollars, soit 5,3 millions d'euros, pour apporter de l'aide aux 40 millions de personnes qui dépendent de ces lacs au carrefour entre le Sahel et l'Afrique centrale. Gilbert Tamba Abuja, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur le lac Tchad qui lie le Sahel et l'Afrique centrale. Une conférence internationale a se tient cette semaine à Abuja pour sauver cette région dévastée par le changement climatique, la famine et les conflits. Le lac Tchad est-il en danger de disparition? Où en est-on avec le méga projet de remplir le lac? L'enjeu sécuritaire est-il en train de corser la grave crise humanitaire qui touche la région? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum ce jeudi à 19h10.
En République démocratique du Congo, dans la région de Beni, une zone où sévissent des groupes armés, une initiative connue sous le nom de Mavuno, récolte en Swahili, essaie d'aider les paysans à lutter contre la pauvreté en les dotant de moyens pour améliorer l'agriculture et en leur apprenant comment devenir entrepreneurs. Mais ce projet, qui a vu le jour en 2014, a un grand défi à relever, l'insécurité. Solange Niamoulissa a joint David Massomo, cofondateur du projet Mavuno.
Mavuno, c'est une organisation qui a été créée sous la philosophie que la population ou les communautés africaines sont capables de créer elles-mêmes leur développement. Mavuno a comme mission de développer un leadership local pour mettre fin à l'extrême pauvreté. Parce que nous avions compris que l'aide en soi directement accordée à nos populations ne pouvait pas aider nos populations à sortir de l'extrême pauvreté, parce que cela a commencé depuis même l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Il y a de l'aide qui vient dans le pays, mais qui n'arrive pas à transformer et à donner un élan économique aux populations. C'est pourquoi nous nous sommes dit, venons travailler autrement, essayons de développer un leadership local, donnons-leur les capacités d'être entrepreneurs eux-mêmes pour qu'ils puissent créer de la richesse au lieu d'attendre quelque chose qui vient de l'extérieur.
Vous travaillez dans une zone rouge à Beni, où il y a beaucoup des groupes armés. Comment arrivez-vous à pouvoir fonctionner sur le plan sécuritaire?
Je dirais franchement que ce n'est pas facile, effectivement, travailler à Beni. Nous avons commencé depuis 2014 à travailler à Beni et la coïncidence est que lorsque nous avons commencé, c'est quand les massacres de Beni ont commencé. Donc nous sommes vraiment en train de travailler dans une situation un peu difficile, très difficile je dirais même, et je ne peux pas prétendre que c'est facile pour nous de travailler dans ces conditions. conditions, parce que nous avons toujours des gens qui se déplacent. Vous savez, ce qui se passe à Beni, c'est qu'il y a beaucoup de massacres dans des villages. Il y a des villages entiers qui sont maintenant vides ou des villages entiers qui sont brûlés. Et il y a des gens qui se déplacent de partout. Et gérer une situation comme ça n'est pas facile. Et surtout que ce sont des populations qui vivent à 100% dépendant de l'agriculture. Donc vous imaginez que vous devez quitter vos villages pour aller dans la ville où vous n'avez pas de source de revenus, où vous n'avez pas votre champ, vous avez tout laissé au village. Donc la situation n'est pas facile du tout.
Quels sont les grands défis que vous rencontrez dans votre travail?
Le grand défi, je peux dire, c'est cette insécurité, premièrement. Parce que je pense que la population de Beni, de l'Est et du Congo entier ne demande que la paix et la sécurité. C'est une population travailleuse, une population courageuse qui peut vraiment prendre soin de soi-même et de leur famille. Ils ne demandent que la paix pour qu'ils puissent rentrer dans leur champ. Ils ne demandent que la paix pour qu'ils puissent faire les activités, leur commerce. Je pense que c'est ça le plus grand défi pour nos travails et pour toute la population de l'Est.
Comment faire pour ramener la paix?
Tout le monde, la communauté internationale, le gouvernement, la mission des Nations Unies, tout le monde doit se mettre sur une table et chercher la solution à ce problème, parce que c'est vraiment un drame que nous sommes en train de vivre à l'Est et ça ne doit pas être pris à la légère, je crois. Je pense que c'est encore pris à la légère, c'est pourquoi ce n'est pas résolu, parce que ce n'est pas la première fois. Ce sont des choses qui se répètent depuis, je dirais, moi je connais depuis 2014, ça, c'est, il y a toujours de massacres et je ne peux pas dire qu'il y a quelque chose de concret qui a été déjà fait, donc il faut faire plus.
C'était David Massomo, cofondateur du projet Mavuno.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Le 26 septembre 2002, le ferry sénégalais, le Diola, faisait naufrage au large de la Gambie, faisant près de 2000 morts. Pour rassurer les passagers et faire oublier le drame du Diola, un consortium sénégalais assure la desserte vers la Casamance. Le bateau Aline Sitoé Diata assure désormais la navette. C'est Dina Abagay, envoyé spécial à Ziguinchor.
C'est un gros investissement qui a été consenti pour rétablir la liaison maritime Dakar-Ziguinchor et favoriser la destination Casamance. Présent sur la ligne depuis 2008, le capitaine Diallo est commandant de bord depuis 2014. Il assure de la fiabilité du navire.
Avec la psychose au début, c'était pas facile, c'était pas évident. Mais maintenant, avec le temps, les passagers se sont habitués. Ils ont commencé à faire confiance à cette liaison, à cette desserte, car tous les moyens de sécurité sont là sur place. Et notre credo actuellement, c'est la sécurité pour les passagers. Depuis ce temps, vous voyez, on a mis tous les moyens, aussi bien dans la formation que dans le recrutement du personnel navigant. On a pris les marins les plus qualifiés presque au Sénégal. Tout ça, c'est pour assurer la gage de sécurité qui existe actuellement dans le milieu maritime.
Abdoulaye Mbaye voyage tous les 15 jours à bord du bateau Aline Sitoé Diata. Il le juge plus sûr que le Diola.
Sur ce bateau Aline Sitoé Diata, non seulement nous avons la sécurité, mais aussi nous avons le confort. Donc c'est totalement différent avec celle du bateau Diola. Parce qu'avant, je me souviens bien que le billet était à 3500 et tu le prenais soit au quai du bateau ou bien après avoir embarqué. Ceux qui étaient en retard peuvent prendre le billet dedans et faire le voyage. Nous voyons que c'était pas bien organisé ou c'était pas du tout sérieux.
Le bateau est également sécurisé et escorté pour parer à toutes les éventualités, notamment celle du terrorisme, comme l'atteste le commandant Diallo sur VOA Afrique.
La sécurité commence déjà au niveau de la billetterie. Il y a un système qui est ouvert. Chaque voyage a un numéro. Chaque navire a un nombre de places limité. Maintenant, si dans le système on atteint le nombre de places, déjà le système se ferme, se bloque pour passer à un autre voyage. Le parcours est suivi depuis Dakar jusqu'à Ziguinchor. Il y a la Marine nationale qui est avec nous. Il y a Elenkin, la base militaire qui est avec nous. Dans le fleuve, on est tout le temps accompagné, on est tout le temps suivi. Durant les heures de manœuvre, d'accostage, appareillage, il y a tout le temps les vedettes de surveillance qui sont tout le temps là.
Malgré le récent regain de violence à Casamance, les touristes continuent à affluer vers le sud du Sénégal. Baptiste est un jeune Français originaire de Bordeaux qui a choisi le bateau pour découvrir la verte Casamance. Il juge le voyage convivial.
Nous, on a entendu en France ce qui s'était passé il n'y a pas très longtemps, mais ça ne nous a pas refroidi. On fait confiance à la sécurité sénégalaise et ça ne nous a pas fait peur pour venir. Ça s'est bien passé, on a mis du temps pour les billets, pour enregistrer les bagages, mais une fois sur le bateau, il y a une bonne ambiance, les gens sont sympas, on a bien dormi, on a bien mangé.
Et non, ça se passe très très bien. J'ai hâte de découvrir et de rencontrer les gens, pouvoir discuter avec eux et voir les beaux paysages.
Plus de 15 ans après le naufrage du bateau de Diola, la liaison maritime demeure primordiale pour le désenclavement de la Casamance. Zone à fort potentiel touristique, le sud compte principalement sur la liaison maritime pour relancer l'économie et le tourisme. À Ziguinchor, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Thomas Blondet. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.